France Info.
France Info. Le Zoom de France Info nous emmène à présent en Syrie et plus particulièrement à Homs. Cette ville située au centre du pays a longtemps été la capitale de la révolution, mais elle est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée régulière de Bachar al-Assad. Il y a un mois, les derniers rebelles ont quitté la vieille ville de Homs à l'issue d'un siège impitoyable qui a duré 2 ans. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous revenez de Homs. Alors dans quel état se trouve aujourd'hui la vieille ville ?
Vous avez sûrement revu, Agnès, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, des images de ces villes normandes comme Saint-Lô ou Caen après les bombardements. Eh bien, la vieille ville de Homs ressemble à cela. Aucun immeuble, aucune maison n'a résisté au feu de l'artillerie syrienne. Je vous propose de suivre Zafer Nakrour. Je l'ai croisé alors qu'il revenait dans sa maison qui est située dans le secteur chrétien, ou plutôt ce qu'il reste de sa maison.
Ici, il y a un obus de mortier accroché. Tu l'as vu ? La cuisinière est tombée du premier étage.
Ce sont des obus tirés par l'armée régulière, hein, parce qu'on sait que l'armée a beaucoup bombardé ici pour déloger les rebelles.
Oui, les rebelles vivaient ici, ils étaient parmi nous. L'armée était obligée d'entrer et de frapper. Et quand elle frappe, elle détruit.
Une autre femme hébétée arrive à peine à parler. Le spectacle de la vieille ville de Homs dévastée est difficile pour celles et ceux qui l'ont connue avant la guerre.
L'église, les quartiers, les maisons, tout.
Vous, c'est la première fois que vous revenez ici ?
Oui, c'est la première fois.
Et votre sentiment ?
Choc, choc. C'est ça, c'est le monde qui parle.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas l'exprimer, quelque chose qui dépasse en fait ce qu'on peut dire.
Aujourd'hui, les pelleteuses ont commencé à déblayer les gravats dans ce quartier à majorité chrétienne. La partie qui est située près de la grande mosquée de Homs, où il n'y a plus âme qui vive, risque quant à elle de rester longtemps à l'abandon. Il va falloir certainement tout raser pour un jour peut-être reconstruire.
Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de France Info, franceinfo.fr, pour voir des images de cette vieille ville de Homs. Alors Valérie, vous êtes rendue également dans le couvent des Pères Jésuites, toujours dans la vieille ville de Homs. C'est là que vivait le père Franz, ce prêtre néerlandais qui n'a jamais voulu quitter la ville et qui a été assassiné en avril dernier.
Oui, dès que vous entrez dans l'enceinte de ce petit couvent, vous voyez une chaise sur laquelle est posé un bouquet de fleurs. C'est sur cette chaise que le père Franz a été abattu d'une balle dans la tête. Sur la gauche, une grande croix est posée sur la terre.
Ici, c'est la tombe de père Franz, celui qui a résisté, le seul qui a résisté dans ce quartier. C'était une personne magnifique, plus que magnifique.
Tous les jours, ils sont des dizaines, comme Mariam à venir ici. La tombe du père Franz est devenue un lieu de pèlerinage. Il avait choisi de rester à Homs pendant le siège avec 2 autres personnes, dont Marie, qui était volontaire dans le couvent. Elle raconte les conditions de vie durant cette période.
Au début, on avait une petite quantité de provisions. Les rebelles forçaient parfois la porte avec leurs pieds. Ils entraient avec leurs armes et prenaient nos vivres. Après, on a vécu une période très dure. On mangeait des herbes car il ne restait plus rien. Le père Franz nous traitait comme si nous étions tous ses enfants. Sous les bombes, il lui arrivait d'apporter de quoi manger aux gens d'un autre quartier. Et quand il ramenait quelque chose, c'était pour tout le monde. Jamais il nous a fait sentir « ça, c'est à toi, ça, c'est à moi ».
Valérie, sait-on aujourd'hui qui a tué le père Franz ?
Non, son assassin n'a pas pu être identifié parce qu'il était cagoulé, mais les amis du père Franz croient connaître les raisons pour lesquelles le prêtre a été tué.
3 jours avant qu'on le tue, des rebelles sont venus. Ils lui ont donné des coups, ils l'ont menacé. Et comme il n'a pas plié, quelqu'un est venu ensuite et l'a assassiné.
Et qu'est-ce qu'il demandait ?
Il voulait d'abord de la nourriture et il voulait aussi l'éloigner de l'idée de faire sortir les gens du quartier.
Un mois après sa mort, les derniers rebelles qui étaient retranchés ont accepté de quitter la vieille ville de Homs après avoir conclu un accord avec le régime. Les civils étaient partis quant à eux quelques semaines avant, affamés par le siège imposé par l'armée. Il nous manque tellement, disent ceux qui ont connu le père Frans. Ce prêtre hollandais qui avait 75 ans répétait qu'il aimait la Syrie comme si c'était son propre pays. Sur l'une des photos, à côté de sa tombe, ses amis ont écrit 50 ans en Orient.
Et nous allons poursuivre ce Zoom avec David Rigoulet-Rose. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour.
Bonjour.
Au-delà de la situation de Homs aujourd'hui, quelle est la situation en Syrie quelques semaines après la réélection de Bachar al-Assad ?
La réélection de Bachar al-Assad s'est inscrite dans une logique d'affichage, de normalisation de la situation dans le prolongement de succès militaires sur le terrain, dont Homs constitue évidemment un élément important, puisque du point de vue du régime, c'était une manière de reprendre la situation en main. Symboliquement, Homs était la capitale dite de la révolution, et le fait effectivement d'avoir repris Homs, ou ce qu'il en reste, constitue un point important pour le régime.
Aujourd'hui, la situation se focalise, l'attention, on va dire, se focalise en Irak. Quelles sont justement les connexions entre la situation en Syrie et la situation en Irak aujourd'hui avec cette avancée des forces de l'État islamique en Irak et au Levant ?
Il y a incontestablement une forme de système de vase communicant entre les deux, de manière explicite d'ailleurs, parce que l'organisation que EIL, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, considère qu'il est une organisation transnationale opérant à la fois sur le théâtre syrien et sur le théâtre irakien. Donc de ce point de vue-là, les choses sont relativement claires. Et c'est toute la complexité de la situation, puisque d'ailleurs Lakhdar Brahimi, l'ancien négociateur qui a démissionné du fait des difficultés rencontrées sur la question syrienne, et disait il y a quelque temps, très récemment, que le conflit ne peut pas rester enfermé dans les frontières d'un seul pays. On le voit tous les jours, il y a effectivement une forme de débordement et d'embrasement régional qui est extrêmement préoccupant.
C'est-à-dire que ce que les islamiques n'ont pas réussi à faire en Syrie, ils sont en train de le faire en Irak, c'est ça ?
On peut dire que de toute façon, ils opèrent des deux côtés. Donc, symboliquement d'ailleurs, une des mesures de l'EIL, c'est d'avoir supprimé la frontière entre la Syrie et l'Irak, comme pour une manière de montrer très fort, très symbolique, mais très fort, que de leur point de vue, les frontières qui sont héritées d'ailleurs des accords Sykes-Picot, des mandats occidentaux, européens, sont désormais caduques.
Et quel est le rôle des autres pays de la région ? Leur rôle et peut-être aussi leurs inquiétudes ?
Tous les pays sont inquiets dans la mesure où c'est une crise qui n'est évidemment pas circonscrite à la Syrie, on le voit de jour en jour, à tel point d'ailleurs que la crise syrienne est d'une certaine manière susceptible de servir de catalyse pour précipiter un rapprochement irano-américain. Par-delà même les négociations sur le nucléaire, puisqu'on a vu, il y a une déclaration du président Rouhani qui évoquait la possibilité justement de discussions bilatérales pour essayer de stabiliser l'embrasement régional.
Et tout ça dans un contexte où les populations civiles sont encore une fois en première ligne et les premières victimes.
Malheureusement, dans ce type de situation, les premières victimes sont toujours les civils. Ce sont eux qui souffrent le plus, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, la crise, évidemment, humanitaire prend des proportions effrayantes, à un niveau rarement connu, puisqu'il y a plusieurs millions de réfugiés et encore plus de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et on voit bien que cette question d'ailleurs des réfugiés devient une question fondamentale pour la stabilité régionale et les pays qui accueillent ces réfugiés, justement, dans le cadre de l'explosion de la situation syrienne.
Et notamment le Liban. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été ce matin sur France Info. Reportage signé Valérie Crova et le Zoom est à retrouver sur franceinfo.fr.